Bonjour, bien-aimé. Dans le langage culinaire, nous dirions que c'est très si avant. La raison pour laquelle nous sommes nés, c'est pour adorer notre Dieu. De savoir que même si nous cessons de vivre, c'est-à-dire si notre souffle s'arrête, mais nous continuerons là-haut à l'adorer. Nous sommes nés pour ça. J'ai la joie de vous retrouver pour parler de la part du Seigneur. Je demande à mon frère Raymond s'il veut bien prier pour recommander ce moment au Saint-Esprit qui est le patron, lui qui sait ce que son Église a besoin. Je demande à mon frère Raymond de prier pour moi, pour l'Église, pour moi, s'il te plaît. Merci bien.
Merci pour cette première partie de culte. Siège de louange de ton cœur. Et nous croyons, Seigneur, ce que tu as dit. Louange du monde de cœur au cœur. Merci parce que ton peuple, ton Église est rassemblée en différents lieux. Ton serviteur, que tu lui donnes une notion spéciale et que tu fasses silence en
Amen. L'apôtre Jean nous dit en Jean 17, verset 17, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a écrit ce texte en disant « Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. » C'est l'apôtre Jean qui a écrit cette parole. Et cette parole a une portée toute particulière dans la vie des enfants de Dieu. J'étais en train de réfléchir un peu de la conséquence que cette parole, quand on l'entend, c'est qu'elle est capable de faire dans une vie. Et tout à coup, toute la semaine, j'étais en train de regarder un peu partout. Et puis, je me suis arrêté sur ce texte d'Ésaïe 55, versets 10 et 11. Ce n'est pas notre lecture, hein. C'est bien évidemment, c'est pas de ça dont on va parler. Mais je trouve ça à une portée dans nos vies qui a une importance capitale. Ésaïe 55, versets 10 et 11, qui dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur, du pain à celui qui en mange. » C'est la conséquence de la pluie. La pluie est faite, la pluie est tombée pour arroser les herbes, pour donner, pour permettre aux agriculteurs d'avoir de la récolte. Mais en contraste, le verset 11 nous dit « Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Je trouve ça tellement important. Je comprends pourquoi très souvent la parole de Dieu, elle choque beaucoup de gens. Et nous, à qui le Saint-Esprit fait grâce, d'écouter cette parole et de l'accepter, elle nous fait du bien. Voilà. De ce que je souhaite parler de la part du Saint-Esprit à son Église est d'actualité. Et nous les avons déjà entendus je ne sais combien de fois, mais il me semble qu'il est bon de les rappeler. Nous les vivons. Je souhaite vous parler en Genèse, chapitre 6. Nous lirons les versets, ça pourrait être une longue lecture. Mais pour économiser le temps, nous survolerons quelques passages. Mais le texte principal de base, là où nous allons parler, c'est Genèse chapitre 6. Nous prions que le Saint-Esprit prenne place parmi nous pour que rien ne fasse obstacle et que les cœurs qui viennent pour écouter la parole de Dieu, que le Saint-Esprit les saisisse et que le Saint-Esprit fasse son travail en eux. C'est son œuvre. Je vous lis. Vous m'accordez le temps, s'il vous plaît. Je vous lis le texte parce que ça me paraît tellement important. C'est Genèse chapitre 6, versets 5 à 22. Je prends mes lunettes. Pardon? Pardon?
Il n'y a pas David dans Genèse, il n'y a pas le texte.
Qu'est-ce que j'ai dit, moi?
Non,
ah, d'accord, ok, ça c'est le c'est, tu vois avec mon frère, ça c'est pas moi. Chacun a sa part. Je ne peux pas tout porter sur le dos. Déjà, j'en ai tellement là, alors. Non, c'est bon. Voilà. Genèse chapitre 6, versets 5 à 22. Je vous fais la lecture. Je vous prie de bien vouloir écouter, s'il vous plaît, la parole de Dieu. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, quelle résolution, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Je suis au verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé, vous qui connaissez l'histoire de Job, vous verrez qu'il y a une similitude entre ces deux hommes. Je suis au verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cam et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. C'est ce que nous voyons, nous entendons, hein? D'accord? L'Éternel regarda la terre et voici, elle est corrompue car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras, l'arche. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras l'arche et une fenêtre et tu réduiras à une cordée en rond. Et tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Verset 17. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Verset 21. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Verset 22. C'est ce que Noé fit. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Frères et sœurs, je pense que cette lecture parle d'elle-même. On n'a pas besoin d'être théologien pour la comprendre. Et aujourd'hui même, je crois que qu'on soit ici en France, en Europe, en Occident, aux États-Unis, un peu partout sur la Terre, je pense que dès lors qu'on ouvre un poste de radio, soit les journaux ou bien la télévision, le constat est fait, le constat est devant nous. De quoi il s'agit? De quoi je parle? Le texte nous dit, c'est de la violence. Ça, c'est le monde d'avant, du temps de Noé. Mais comme il est dit dans la Bible, rien n'est nouveau sous le soleil. C'est que ce qui a été du temps de Noé, et aujourd'hui, nous les vivons, pour ne pas dire tout le jour, mais nous les vivons. C'est un constat qui est accablant. Le constat est accablant. Le texte nous dit que nous parle de la violence. Ouf, permettez-moi de dire ça. C'est triste dans nos écoles. Aujourd'hui, un professeur, presque, il ne peut pas reprendre un enfant. Alors qu'en tant que professeur, c'est son droit. Si l'enfant se comporte mal, il ne va pas faire le travail des parents. Il ne va pas s'occuper de cet enfant-là comme si lui, il était le parent de cet enfant. Mais si je suis dans une classe, je suis professeur. Donc, il y a des choses. Si le devoir n'est pas fait, je crois minimum, c'est mon devoir. Sinon, je suis irresponsable. Je ne suis pas digne d'être payé pour ce service. Aujourd'hui, nous entendons, nous connaissons toutes ces choses dans nos écoles. Les faits divers dans la société. Aujourd'hui, ce qui se passe dans la société est triste. Pour un oui, pour un non. Juste cette semaine même, il y a un monsieur dans le Nord de 72 ans qui est mort par des gamins qui font du bruit dans la cour, en dessous de son appartement. Simplement, le motif, il le demande de se calmer. La mort, 72 ans. C'est pour nous dire que à quel taux la violence, elle existe. Avant, on disait que dans certains endroits, nos sœurs qui rentrent vers 21h, 22h, avait du mal pour rentrer chez elle, hein, ça de l'époque, hein, moi je connaissais ça. Mais aujourd'hui, vous qui êtes conducteur comme moi, quelqu'un qui vous fait un geste, vous faites une petite remarque, eh bien, ce geste-là, cette petite remarque-là peut se tourner. Enfin, vous voyez, vous êtes sur la route comme moi, on voit comment les choses, comment ça se passe. Alors nous allons dire que la patience des dieux se prolongeait. La patience des dieux se prolongeait. Et lorsque Dieu a fait le constat de l'être humain que lui qu'il avait créé, lui qu'il a façonné, se détourne de lui, Dieu est triste. Et remarquez, c'est comme si, le texte nous parle, c'est comme si c'était un homme qui parlait, Dieu à regretter. Bon, c'est un langage un peu, vous voyez bien que son affliction, parce que c'est comme si c'est un homme qui parle, le regret d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Mais heureusement, il y a eu un homme, le texte nous dit au verset 9, un homme qui était juste et qui était intègre, qui marchait avec Dieu. Et de cet homme, Dieu va lui faire une recommandation de construire une arche. Cette arche, alors, le projet de Dieu, c'est de détruire la terre, de détruire l'homme, de détruire la terre, parce que sans être haut, il ne peut pas voir ça. Dans Habakkuk, chapitre 1er, verset 13, ce texte nous dit, les yeux de Dieu sont trop purs, il ne peut pas voir le mal. Mais Dieu donne toujours une chance. Dieu donne toujours, avant que la sentence de Dieu tombe, Dieu donne toujours une chance. Dieu donne toujours la possibilité de se reprendre avant que sa sentence tombe. Et de là, dans tout ce que Dieu... C'est surtout la violence. Et le texte, il y a un texte qui nous parle tellement fort dans le chapitre, qui nous dit, chaque jour, il se convergeait dans le mal, chaque jour. Frères et sœurs, vous savez, moi-même, je suis une usine. Enfin, je parle comme ça pour illustrer ce que je veux dire. Dans une usine, qu'est-ce qui se passe? On fabrique plein de choses dans une usine. On est d'accord? Que ce soit, comment dire, tous ces matériels-là. Il y a des usines dans lesquelles on les fabrique avant qu'on les installe ici. Qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? Il y a un texte en Marc chapitre 7, versets 21-22. Ces deux textes nous disent que c'est dans nos cœurs viennent toutes les pensées mauvaises que nous voyons, et toutes les pensées avant de le mettre à l'exécution. Vous m'entendez bien? C'est pas moi, hein? C'est le texte Marc chapitre 7, 21-22. Quand je dis je suis une usine, vous aussi, c'est comme si moi, voilà, j'ai une idée qui me vient là, l'idée qui me vient là, et maintenant je commence à travailler cette idée pour dire comment je vais faire, jusqu'à ce que j'arrive à mettre cette idée à l'exécution. La Bible nous dit, c'est le cœur de l'homme, c'est celui-là, c'est dans, au cœur de l'homme viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les jalousies, même les attentats. Si je vous prends l'exemple de Caïn et Abel, en Genèse chapitre 4, la Bible nous dit, voilà, Caïn, lui, il était agriculteur. Abel était éleveur. Voilà, les deux présentent une offrande à Dieu. Mais la grâce que Abel a eue, il y a eu un regard favorable sur l'offrande d'Abel par rapport à celle de Caïn. Waouh! Et de là, il y a une idée qui vient au cœur de Caïn, Genèse chapitre 4, à partir du verset 1er, vous verrez. Il commence à ne pas supporter Abel. Et au verset 7, le texte nous dit, un jour, ils étaient dans un champ, et là, il se jeta sur son frère, il le tua. Vous voyez comment l'être humain est capable? C'est-à-dire que le jour où il l'a tué, ce n'est pas le jour même que l'idée lui était venue à l'esprit. Déjà, il ne le supportait pas, il ne le digérait pas, et au fil du temps, jusqu'à ce qu'il arrive à mettre cette idée à l'exécution, il l'a tué. Bien-aimé, lorsque Dieu a vu la situation, la méchanceté, la violence qui habitait l'homme de l'époque du temps de Noé, lorsque Dieu a vu ça, il a pris une résolution. C'est pourquoi je disais, avant que la sentence tombe, Dieu donne toujours la possibilité à l'être humain de se reprendre. Alors, je veux dire que du temps de Noé, il y avait ça, mais aujourd'hui, et moi, et l'Église. Allez, laissons Noé de côté. Maintenant, voyons comme si c'était nous. Du temps de Noé, Dieu avait donné cette possibilité. La méchanceté, le péché. Et Jérémie va nous dire aussi, en Jérémie 17, verset 9-10, il va nous dire la même chose. Le cœur de l'homme est tortueux et par-dessus tout, il est mauvais. C'est pourquoi je vous dis, nous, nous sommes des usines, nous, hein, telles que vous nous voyez là. On est capable, nous, de fabriquer des idées. Et ces idées-là, après, nous les mettons à l'exécution. Eh bien, parfois, la famille paie la conséquence. Il y a ce qu'on appelle conséquence collatérale. Soit les voisins, soit les frères, soit la sœur, soit la maman, le papa. Il y a plein d'implications là-dedans. Et quand Dieu a vu tout ça, il a signé un contrat à Noé. Lequel? Là où il a demandé à Noé de construire une arche. Je prie du temps pour comprendre le temps que Noé a mis pour construire cette arche. Et je me dis, mais Noé n'était pas à Toulon. Pourquoi je dis Toulon? Puisque comme en France, à Toulon, c'est un endroit qui a la mer. Il n'était pas à Marseille, il n'était pas au Havre, à Rouen. Bon, bref, vous voyez, il n'était pas Pas-de-Calais, tout ça. Bref, c'est pour faire passer mon message. Mais, alors, comme je ne sais pas de l'époque là où Noé était, il n'y avait pas de l'eau. Mais Dieu lui a demandé de construire, vous voyez la longueur, la largeur, la hauteur, tout ça. Quel est le motif? Quel était le but de tout ça? Et le texte nous dit, enfin, dans les recherches, on nous dit, ça a pris beaucoup de temps. Et pendant tout ce temps, autour de 120 ans, pour construire cette arche, Dieu a donné une prolongation. Vous savez ce que c'est une prolongation? Quand il y a deux équipes qui jouent et quand ils arrivent à l'égalité, c'est bien ça? Il n'y a pas une qui marque plus de points. À un moment donné, il y a une sorte de prolongation jusqu'à ce qu'ils arrivent, enfin, la plus forte, jusqu'à ce qu'ils arrivent à gagner. Et pendant toutes ces années, Dieu a donné, pendant toutes ces années de repentance, pendant toutes ces années, le texte nous dit, il continue à vivre sans s'inquiéter, tranquillement. Ce qui est fort, tu peux afficher s'il te plaît, 2 Pierre 2, verset 5. 2 Pierre 2, verset 5 va nous dire que... S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais... C'est bien ça? S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de justice, lorsqu'il venait au lieu de déluge sur un monde impie. C'est pas ça. Non, on va voir autre chose. Simplement, ce qu'il faut comprendre, pendant tout ce temps écoulé, Noé, pendant la construction de l'arche, Dieu a donné la permission, Dieu a permis que l'homme puisse se convertir, se reprendre. Voilà, et ils ont fait qu'à leur tête. Mais nous allons voir en Matthieu 24, verset 37 à 40, cette fois-ci j'espère que je suis bon, qui nous disent, ces textes, versets 36 à 39, qui nous disent que pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne le sait. C'est très important, ça c'est comme, là je parle, nous parlons de l'enlèvement de l'Église qui va avoir lieu bientôt. C'est très important de parler de l'enlèvement de l'Église parce que nous, si vous voulez, j'ai envie de vous dire ça, nous sommes en transit. Vous savez ce que c'est quand on est en transit? Quand on est en transit, peut-être le train arrive dans une demi-heure. Le train peut-être, il arrive parce que c'est une correspondance. OK? Le train arrive dans une heure, dans une demi-heure. L'avion arrive dans 2 heures. Si je dois faire une correspondance, je suis dans une ville. Donc, je ne peux pas quitter cette ville pour aller, disons, à 400 kilomètres, 500 kilomètres, parce que le prochain avion arrive dans une heure. Alors, ici, pour ce qui concerne le jour de l'heure, personne ne le sait. Il s'agit ici, s'il vous plaît, retenez bien cela, il s'agit le retour de Jésus-Christ. Ni les anges dans les cieux, ni les fils, ni mais le Père seul. Ça demande une autre explication. Quand on dit ni les fils, ça demande une autre explication. Ce qui arriva du temps de Noé arrive de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour de Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais là-dedans? Qui se marient, ils se marient leurs enfants. Il n'y a pas un mal. Mais la seule chose, c'est de se dire, mais pendant tout ce temps, pendant la fabrication de l'arche, ils avaient le temps pour se repentir. Je dis bien, nous parlons du temps de Noé, mais aujourd'hui, je parle dans l'église actuelle. Je parle que ce soit dans notre assemblée ici à Créteil. Je vais dire comme si j'étais aussi dans n'importe quelle assemblée. Ce que je dis là, je dirais la même chose. Nous aussi, il y a quelque chose, nous avons besoin de quitter. Il y a peut-être quelques petites habitudes, nous aussi, nous avons besoin, peut-être nous les chérissons, mais nous aussi, il y a quelques petites choses, je ne sais pas lesquelles, je ne connais pas leur nom. Moi aussi, moi le premier, comme quelqu'un dit très souvent, moi le premier, comme ça a été dit ce matin, moi aussi, et donc moi le premier, pas moi aussi, moi le premier, je dois faire en sorte d'abandonner. Oh, voilà, est-ce que c'était une surprise? Quelque part, on nous dit qu'on a même traité Noé comme s'il était fou. Et c'est vrai qu'on peut comprendre cela. Quelqu'un qui commence à construire, là qu'il n'y a pas de fleuve, qui commence à fabriquer un bateau, c'est pas un jeu. Pour la longueur de cette arche. Et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que représente l'arche? L'arche, il représente... Donc, je ne peux pas parler de Jésus-Christ parce que de cette époque-là, Jésus-Christ, même s'il était là, parce que tout est fait par lui, il est le témoin fidèle, tout a été fait par lui, mais il n'était pas d'actualité. Il était question de Dieu. Dieu était celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. L'arche repose à l'ombre du Tout-Puissant. De cette époque-là, l'arche symbolisait cela. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que Jésus-Christ symbolise l'arche. L'Église symbolise Jésus-Christ et j'ai envie de dire aussi, l'arche symbolise la porte. En Jean chapitre 10, verset 9, qui va nous dire que Jésus nous dit, lui, il est la porte, celui qui rentre par lui, il est le chemin, la vie et la vérité et la vie. Jésus-Christ est la porte, c'est par lui qu'il faut passer pour rentrer dans le ciel. Donc, le moment où vivait les contemporains de Noé, ils vivaient sans se soucier. Allez, voilà, ça, il y a rien de spécial qui va se passer. C'est un monsieur, permettez-moi de dire ça comme ça, je vais parler comme si nous étions dans le monde qui parle un peu. C'est un monsieur qui a bu un coup, et puis bon, il a besoin de faire passer le temps. Noé ne buvait pas. Noé, s'il avait reçu... Si vous regardez jusqu'au verset 22, le texte nous dit « Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait demandé ». Le déluge, c'est quoi le déluge? Qu'est-ce que ça symbolise le déluge? Le déluge symbolise le jugement de Dieu. Le déluge qui a lieu du temps de Noé symbolise le jugement de Dieu. Comme je vous disais, Dieu ne punit pas comme ça. Dieu ne frappe pas comme ça. Il donne toujours la possibilité de se repentir. Dieu donne toujours la possibilité de se repentir. Or, c'est affligeant. Et le texte, nous allons voir, là, il va nous dire que, en 2 Pierre, chapitre... en 2 Pierre, il va nous dire que lorsque le déluge a lieu, il n'y a eu que 8 personnes. Nous l'avons lu dans le texte de Genèse. Il y a 8 personnes. Mais c'est quand même... Comment peut-on comprendre tout ça? Pendant toutes ces années, il y a l'évangile de grâce. Et, vous savez, pendant que je prépare ça... Je me dis que c'est une bénédiction pour les parents. Quand je dis ça, ne prenez pas ça mal, hein, parce que moi aussi, j'ai des jeunes enfants. Ils sont nés dans l'Évangile. Ils sont nés là-dedans. Mais il y en a aujourd'hui qui ne mettent plus leurs pieds à l'église. Alors voyez-vous, je suis mal placé pour vous faire de la leçon. Si je ne veux pas être comme frère Claude a prêché dimanche dernier sur à maintes fois il a fait citation du mot pharisien. Non. Simplement, j'ai envie de vous dire que vous qui avez des enfants, vous voyez, qui sont à Christ, c'est une bénédiction. Remarquez. Le texte nous dit, lorsque le déluge vient, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant tout ce temps, le prédicateur Noé a prêché l'évangile, à parler de cette repentance, il n'y a que 8 personnes. Comprenez-moi bien, que 8 personnes. Lesquelles? Il y a eu Noé, nous sommes au verset 18. Au verset 18, le texte nous dit, il n'y a eu que Noé, sa femme, ses 3 garçons et ses 3 belles-filles. Une question je me pose, très importante. Je me dis, mais les enfants de Noé étaient malléables quand même, hein? Ah oui, parce qu'aujourd'hui, Dieu nous donne nos enfants, Dieu nous donne des enfants. À un moment donné, c'est vrai que nos parents, nous faisons de nos mieux, nous faisons à notre petit niveau, à nous, nous faisons tout ce que nous pouvons. Mais j'ai envie de vous dire, vous qui avez des enfants qui sont sous vos toits encore, qui aiment aller à l'église, c'est une bénédiction. Et j'ai envie de vous dire, même si c'est mon cas, parce que les miens, j'en ai 2 à la maison qui ne vont plus. C'est mon souci, c'est de prier pour eux. Je ne peux pas faire autrement. Mais Dieu va faire son œuvre en eux. Donc, remarquez, pour voir cette famille Noé, c'était une famille bénie de la part de Dieu. Les enfants de Noé, oh, je me réjouis pour, même si Noé n'est plus là, mais j'ai envie de dire, je me réjouis pour Noé. Parce qu'il avait ses trois garçons et ses 3 belles filles qui s'étaient données à Dieu et qui ont la vie sauve pendant le déluge. Vous savez combien de temps le déluge a duré? Près d'une année. Lorsque nous lisons chapitre 7, chapitre 8. Et pendant presque une année, waouh! Et la Bible nous dit, remarquez, 40 jours, 40 nuits, la pluie tombait. Et ce n'est pas des petites pluies, c'était des grosses pluies. Et 40, ici, dans la Bible, c'est une sorte de preuve. Pendant 40 jours, nous avons le mot 40 plusieurs fois dans la Bible. Moïse 40 ans dans le désert, Moïse 40 ans chez Pharaon, Jésus-Christ 40 jours, 40. Plusieurs fois, nous avons le chiffre 40 dans la Bible. Le chiffre 40 dans la Bible symbolise épreuve. Donc, voilà, tout cela, comme je vous dis, Dieu veut toujours nous donner une deuxième chance. Alors, je dis une deuxième chance dans notre langage comme ça, vous comprenez bien, mais Dieu ne passe pas à l'action tout de suite. Il donne toujours un temps de repentance, un temps, et c'est biblique, nous allons le voir. Il donne toujours un temps pour se reprendre, un temps. C'est vrai que je tombe, mais il y a toujours une possibilité de se relever, de ne pas rester toujours par terre. pour ne pas rester terrassé. Il y a toujours la possibilité avec Dieu de se reprendre. Mais quand bien même, la patience de Dieu a une limite. Il faut le savoir. La patience de Dieu a une limite. Ce même Dieu, nous appelons nous tous ici le Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant, le Dieu plein de grâce. C'est vrai, nous sommes d'accord. Mais aussi, il est le Dieu de colère aussi. Quel père qui ne reprend jamais son fils? Je suis désolé, si je suis papa, j'ai mon fils, j'ai un enfant et qui se comporte pas bien. Et moi, je le regarde dans les yeux comme ça. Waouh! Le premier jugement, c'est la société, hein? La société va me dire que waouh, t'es bien gentil, mais ton fils là. Et quand on entend ça comme ça, ça veut tout dire, hein? Ok? Donc nous voyons que le Dieu tout-puissant, il a donné cette possibilité à Noé de construire cette arche pour sauvegarder ceux qui voulaient sauver leur vie, mais malheureusement, ils faisaient qu'à leur tête, mais le jugement de Dieu était tombé. Regardons 2 Pierre chapitre 3, et ça c'est un point, j'ai envie de vous dire, pour l'Église, pour moi-même, pour chacun d'entre nous, c'est très important de prendre cela au sérieux. Dans ce texte, 2 Pierre chapitre 3, verset 3, verset 4. C'est une question qui est posée dans ce texte. C'est une question qui est posée dans ce texte par rapport à des moqueurs qui veulent nous faire croire depuis la nuit des temps, c'est que, on va dire que c'est une blague. Il n'y a pas une fin à tout, c'est une blague. Mais nous allons voir. Merci, frère. C'est Pierre qui enseigne de son époque, l'apôtre Pierre, de son époque, qui enseignait à l'Église de lorsqu'il était apôtre. Que dit le texte? Enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, c'est très important, dans les derniers jours, c'est depuis la mort de Jésus-Christ, depuis la mort, la résurrection de Jésus-Christ, au moment que nous parlons, ici, nous sommes en plein dedans, les derniers jours. Dans les derniers jours, il viendra qui? Des moqueurs avec leur raillerie. Qui sont ces moqueurs? Je suis désolé de vous le dire, même si c'est votre papa, même si c'est votre frère, même si c'est votre maman, c'est votre copain, comme très souvent j'entends l'expression, c'est mon meilleur copain, c'est mon ami d'enfance, je n'ai rien contre. Mais si il ne partage pas la même foi que toi, par exemple, quand tu veux aller au culte d'adoration pour venir ici pour dire c'est la raison pour laquelle je vis, ou du moins ce qu'il va te dire, ah, est-ce que tu ne veux pas aller en boîte? J'ai envie de te dire, je suis désolé, attention. Attention, les moqueurs ici, et le texte qui va nous dire, errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. J'ai envie de vous dire, c'est vrai, il y a des conseils, mais il faut faire le tri pour savoir où on va mettre son pied, ses pieds. Parce qu'il y a des conseils qui ont des conséquences terribles, terribles, terribles. Les moqueurs, par exemple, qui vont vous filer un petit... Vous voyez ce que je veux dire? Un petit joint. J'ai envie de vous dire, je suis désolé, nous avons des jeunes parmi nous. Dites-leur merci. Et puis aussi, il y a certains contacts, si vous ne pouvez pas avoir aussi. Ben écoutez, je continue à vivre. Hein. Il y a certains contacts. Si ces contacts-là peuvent polluer ma vie, je préfère ne pas les avoir. Donc, le texte nous dit, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Très important. Alors, la phrase n'est pas terminée. Virgule et au verset 4. En disant, c'est toujours les moqueurs ici, hein? D'accord? La phrase n'est pas terminée. Au verset 4. En disant, écoutez leur propos. Où est la promesse de son avènement? Vous me suivez là? On est là ensemble? On est là? Où
où est la promesse de son avènement? C'est la question, comme je vous disais, il y a une question qui est posée dans ce texte-là. Ok. De quoi il parle? De quoi il parle aussi, ces moqueurs, avec leur raillerie? De quoi il parle ici? Écoutez. Depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Point, terminé. C'est quoi ça veut dire? Depuis les pères sont morts. Là, ces moqueurs-là, ce sont des faux docteurs qui véhiculent certains messages. Et là où ils disent, depuis que les pères sont morts, ici, là, ils font appel aux patriarches, à Abraham, Isaac et Jacob, tout demeure comme le commencement de la création. C'est fini, tout ce que vous dites là, c'est typique. Il n'y a pas d'enlèvement, Jésus n'est pas de retour. Le monde, comme vous voyez le monde là, le monde reste comme ça. Bien-aimé, je vous dis ça. Moi, ce n'est pas ça qui va me faire rentrer dans le ciel. Je suis converti à l'âge de 15 ans. D'accord? J'ai 38 ans depuis que je suis dedans. J'entends des choses. Je vois des murs, je vois des lèvres. Je sais, nous avons des rencontres quelquefois qui peuvent nous dérouter, mais c'est à nous. Et si nous prenons le verset 9, alors c'est la question. Là, ici, j'étais dans la question qui est posée au verset 3, verset 4. Maintenant, Pierre répond au verset 9, verset 10. Verset 9, verset 10. Pierre répond pour donner l'explication. Écoutez, hein. Le Seigneur ne tarde pas. C'était la question qui était posée. Où est la promesse? C'était la question. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il fait? Il use de patience envers vous. Ça veut dire que c'est la même. La prolongation du temps de Noé, cette prolongation de 120 ans qui avait été donnée pour ceux qui voulaient échapper à la mort, à ce déluge. Donc voilà, c'est la même chose qui est reprise ici. Il use de patience, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse. Frères et sœurs, ce que je vais dire là, ce n'est pas biblique, mais c'est juste un exemple. Vous savez qu'il y a des élections, souvent, quand il est question d'un référendum. Dans un référendum, qu'est-ce qu'on demande? Là, on ne présente pas un programme pour dire, voilà, je vais faire les routes, je vais construire des hôpitaux, Non, ce n'est pas ça. Dans un référendum, on présente deux mots. Lesquels? Oui, non. Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous votez pour? Vous votez contre? Tu veux facilement tout faire? Ok. Donc, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ici, c'est comme si j'ai envie de dire, c'est un référendum. Dieu te demande, est-ce que tu votes pour, est-ce que tu votes contre? Qu'est-ce que j'entends par là? Est-ce que tu veux la vie éternelle? Est-ce que tu veux l'enfer éternel? Je vais vous dire que je sais que c'est des termes à l'église, on n'aime pas trop entendre, mais je suis désolé, je suis obligé de le dire, parce que je sais bien qu'il y a le lac de feu qui attend ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne confessent pas Jésus. Je ne parle pas en Dieu, mais ceux qui ne confessent pas Jésus comme leur Seigneur, ceux qui ne confessent pas Jésus comme leur Dieu. Donc, il y a le lac de feu. C'est que Dieu, Jésus, use de patience, ne voulant qu'aucun périsse. Il veut que nous parvenions tous à la repentance. Le jour, verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Oh, bien-aimé, si chacun d'entre nous, si tu sais, un voleur vient chez toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler des gros bras. Ben, c'est bien ça. Si je sais qu'un voleur va venir pour cambrioler ma maison, moi, je vais appeler mes cousins, je vais leur dire, écoutez, la main forte. Ben, c'est comme ça. Je veux dire, la main forte, et puis on va se mettre un petit peu, hein, pas loin de la maison, on va essayer de se cacher un tout petit peu tout, et dès lors que nous apercevons, il y a quelques manifestations qui se font, et puis non, là, on va, hein, n'est-ce pas? Donc, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour-là, écoutez bien, je vais vous dire, bien-aimés, moi je vois des choses à Paris, je vois des immeubles à Paris, quand on les voit, à chaque fois je dis ça, pas très longtemps, je suis allé dans un mariage, une 16,
le 16 mai dernier, dans la salle là, quand j'arrive, je dis non, Ibène, tu ne vas pas te laisser impressionner. Hein, je me dis, quand j'arrive, quand je mets les pieds, ce que je vois là, quelqu'un qui n'a pas d'espérance, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, je vais lui dire, ce truc-là va disparaître. Il va me dire, mais t'es complètement fou. Ça, et que la Bible nous dit, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés s'éduiront, et la terre avec les œuvres qu'elle enferme sera consumée. Écoutez, je sais qu'il y a l'héritage souvent dans les familles, pour un petit bout de terre, parfois on est prêt à se battre, aller devant les tribunaux. Excusez-moi s'il y a des Africains parmi nous, parfois il y a même la magie. S'il y a des Haïtiens parmi nous, excusez-moi, je ne sais pas s'il y a des Haïtiens, mais je sais aussi, parfois il y a ce qu'on appelle coup de zombie. Tu vois ce que je veux dire, hein? Il y a ce qu'on appelle, on envoie un mort, on expédie un mort pour tuer l'autre. Pourquoi? Pour un petit morceau de terre. Alors que ça va consumer, ça va passer. Le seul bien que nous ayons, qui ne disparaîtra jamais, c'est la vie éternelle. Le seul bien. Alors Jésus-Christ est notre trésor. Jésus-Christ est notre bien. N'écoutez personne qui va nous te raconter des histoires. Je sais qu'il y a des moments difficiles, mais Jésus-Christ viendra, bien-aimé. Jésus-Christ viendra. Je vous le répète, Jésus-Christ viendra. La chose, c'est que moi, Ibène, si j'ai quelque chose qui n'est pas pour Dieu, à moi de faire en sorte de les jeter, de me séparer de ces choses. D'accord? Parce que pendant tout ce temps, Dieu avait permis, a autorisé à Noé de construire cette arche qui symbolisait et celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu leur a donné cette permission aux contemporains de Noé de l'époque. Malheureusement, ils n'ont pas saisi cette main tendue de la part de Dieu. Aujourd'hui, cette même parole qui vient d'être dite, où est la promesse? Où est la promesse? Oui, moi je crois ça, Jésus reviendra. Si Jésus, franchement, si cette espérance-là, c'est même pas la peine que je sois là. Non, c'est pas, non. Non, moi, je crois pertinemment, moi, je crois que Jésus revient. Et ce que dit, n'oubliez pas cela, il dit très, très, très bien ce qu'il dit de sa bouche. Et surtout, ça, la fidélité de Dieu, c'est un autre sujet. Dieu ne peut pas mettre en jeu sa fidélité. Non. La fidélité de Dieu, Dieu ne joue pas avec ça. Dieu, sa sainteté, d'accord? Sa sainteté, il ne joue pas avec ça. Ce qu'il dit, il le fait. Jésus reviendra. C'est à vous, à moi, à l'Église, de tous les lieux sur terre, les hommes, les femmes qui confèrent Jésus, rester branchés, si je peux me parler comme ça, rester connectés à Jésus-Christ, parce qu'il viendra. Et il y a un texte qui nous dit, je termine, qui nous dit, peut-être tu peux être dans l'avion, tu peux être au travail, tu peux être, nous, moi aussi, je peux être au travail, en avion, je ne sais où, mais nous savons que, et j'étais en train de penser cette semaine, je me dis que les gens qui travaillent dans les chaînes de télévision, un beau matin, ou bien je ne sais pas à quel moment ça va se passer, celui qui devrait venir au travail, on ne va pas le voir. On va commencer à poser la question, mais je pense que la BFM TV va continuer à tourner pour dire voilà, un tel n'est pas là, un tel n'est pas là, un tel n'est pas là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Sœur Lisa est enlevée, notre sœur Viviane est enlevée, mon frère qui vient à l'église, qui jouait, il n'est pas là, il est enlevé. Ebed n'est pas dans son taxi, il est enlevé. Donc, il faut le croire, Jésus viendra. Et cela, qui que là où nous soyons, c'est qu'il viendra, il nous prendra individuellement. Et chose paradoxale, il nous dit, peut-être deux personnes peuvent être au lit ensemble. Le mari s'en va, la dame ne va pas. Et le matin, qu'est-ce qui va se passer? BFM TV va commencer à envoyer les journalistes un peu partout, un peu partout. Voilà, Jésus revient à nous de saisir cette grâce qui nous est faite. Je m'arrête là. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci.